Le dimanche, nous allions déjeuner chez la mère de ma mère, Nona Emma. Depuis le vendredi soir, elle se relayait avec sa belle-fille Lilina devant la toute petite flamme où mijotait le ragoût. Notre arrivée à midi dans le vestibule était accueillie par un alléluia de ragoût droit dans le nez. Cette sauce était un applaudissement de stade debout après un but. C'était une étreinte, un saut et une cascade dans les narines. Je ne retrouverai jamais plus cet abordage au plus haut de mes sens, qui est pour moi dans une glande de l'odorat. À table, devant le ragoût accompagné de grosses pâtes, j'étais assis bien sagement, mais intérieurement j'étais à genoux devant mon assiette. Ce fut ma portion de manne, le pain des cieux, préparé par deux prêtresses des fourneaux, par leur rite nocturne. C'était des bouchers qui imposaient le silence. Mes yeux aussi se fermaient. Les fourchettes dans les assiettes recueillaient le fruit de la connaissance. La bouche pleine gazouillait un cantique. Je n'ai pas un tempérament mystique, mais ce peu qu'il m'a été donné d'avoir, je l'ai dégusté. Je l'ai eu sur la langue tous les dimanches de mon enfance. Cette table de fête prend dans mon souvenir la forme d'un hôtel. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h en semaine impair, mais aussi quand vous le désirez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. C'est souvent une bonne cuisinière, une grand-mère, une généreuse, une partageuse de recettes, de secrets culinaires. Une fabricante d'odeurs et de joies et de souvenirs qui restent à jamais dans nos mémoires. Mémoire olfactive, gustative, pour l'écrivain italien Eri De Luca, avec ce fameux ragoût préparé par sa nonna Emma. Extrait du livre Le Plus et le Moins, dont je viens de lire un passage pour démarrer cet épisode. On parlera certainement aussi de recettes, plutôt de recettes de cocktails a priori, avec notre invité que je suis très heureux d'accueillir, Alfred Cointreau, sixième génération de la famille Cointreau et grand spécialiste de l'art du cocktail qu'il doit notamment à sa grand-mère. Bonjour Alfred et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Bonjour à tous.
Alors Alfred, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Alors le prénom de mes grands-mères du côté maternel, c'était Charlotte. Surnommée la mouette parce qu'elle avait une façon de rire très caractéristique qui se rapprochait des mouettes a priori. Alors ses petits-enfants n'ont pas eu le temps de lui donner le nom de la grand-mère parce qu'elle est décédée malheureusement avant qu'on la connaisse. Ma grande sœur qui est l'aînée avait quelques mois quand elle est décédée. Et pour ma grand-mère paternelle, son nom c'était Elisabeth. Ses amis l'appelaient Babé et ses petits-enfants l'appelaient Babi.
Et alors, parle-nous de Charlotte, la mouette, ce rire-là. Tu ne l'as pas connue, mais son rire, c'est quelque chose qui vous a été transmis. On vous raconte cette histoire, on vous a dit qui elle était, comment elle était.
Oui, alors c'était une personne très joyeuse, très pieuse et très joyeuse. Et elle venait d'une famille de 12 filles, donc en Bretagne, chez mon arrière-grand-mère, du coup, qui était sa mère. Et à l'époque, donc, tout... L'accouchement se passait à la maison, donc la sage-femme venait à la maison. Bien sûr, mon arrière-grand-père restait sagement dans le couloir. Et pour le sixième enfant, elle voit arriver la sage-femme. Mon arrière-grand-père lui dit « Ne me dites rien, je sais que c'est une fille. »« Non, non, monsieur, ce n'est pas une fille. » Du coup, il se redresse tout content. « C'est un garçon. »« Non, monsieur, c'est deux filles. » Donc une petite paire de jumelles, voilà.
Et alors, du coup, l'histoire du rire de la mouette est arrivée plus tard. Ça vient d'où ? Tu as une histoire à ce sujet ?
Alors oui, alors on a quelques histoires. Alors c'est aujourd'hui, on commence à parler avec ma mère et mon oncle et ma tante de leurs parents. Mais ils sont décédés tragiquement en hiver 85, qui était un hiver très rigoureux. Et ils sont morts d'une assez belle façon parce qu'ils sont morts tous les deux dans leur sommeil. Donc sans souffrance, sans rien, et puis ils sont partis tous les deux. Mais du coup, ça a laissé quelques traces chez mon oncle, ma tante et ma mère.
Un chagrin qui a été difficile à explorer pour Exactement. Vous, à questionner.
Ouais. Et puis mon oncle avait cette phrase, le jour pour partir à l'enterrement, donc il y avait lui au volant, ses deux sœurs, mon papa, parce que maman était déjà mariée, et ma grande sœur et mon oncle Xavier a dit, qui est aussi mon parrain, a eu cette phrase, bah voilà, notre famille tient dans une voiture. Et le rire, alors c'est une famille du côté de la Pérolière, c'est leur nom, juste avec les cousins, les enfants de papa, de maman. Enfin, les frères et sœurs, les enfants des frères et sœurs de maman, les cousins. On est la petite famille, mais quand on met la famille au second degré avec les Lapérodières et les Lantivy, on est 150 cousins de mon côté. Donc là, on ne tient plus du tout dans une voiture. Et on fait toujours des grandes réunions de famille. C'est quelque chose qui est assez bien organisé sur un week-end et pendant lesquels on rigole beaucoup. Et par exemple, il y a 2 ans, quand on l'a fait la dernière fois, c'était pour les 300 ans de la Pérolière, donc une propriété à côté d'Angers, à Luant-Beaujois. Chaque famille avait comme thème un album d'Astérix et Obélix. Donc tout le monde était déguisé, on faisait des courses de chars et autres épreuves pendant le week-end. Et puis, il y a toujours une soirée, naturellement, et moi j'endossais le rôle de druide, parce que le druide avec la potion magique, bien naturellement.
Sacrée fête dans la famille.
Sacrée fête, ouais, c'est vrai que d'un côté ou de l'autre, on a toujours ce côté fête, ce côté hospitalité, ce côté où on aime recevoir.
Il y a de la joie, quoi.
Il y a beaucoup de joie, malgré les tristesses, comme je viens de dire, on arrive toujours à prendre le côté positif et toujours à tirer le bon, et même dans les moments tristes, on arrive à tirer les bons côtés. Et puis, le fait de se réunir, alors de temps en temps, c'est pour les enterrements, mais on se retrouve quand même en famille et il y a quand même ce côté chaleureux, ce côté familial qui prend le dessus.
Et alors de l'autre côté, donc c'est Elisabeth, ton autre grand-mère. Alors Elisabeth, toi, comment tu l'appelais? C'était quoi son surnom de grand-mère?
C'était Babi, dérivé de Babé, comme l'appelaient ses amis. Et Babi, donc vraiment un petit mot très affectueux quoi, pour les enfants. Et c'est Babi, tout simplement.
Ouais, et assez singulier, parce que c'est pas un surnom de grand-mère très répandu.
Et puis, pour mon grand-père, c'était Ampé, donc c'était Babi Ampé, deux surnoms pas du tout communs, mais voilà.
Alors, parle-nous un petit peu d'Elisabeth, si tu devais la redessiner, à quoi elle ressemblait, montre-la nous un petit peu.
Alors, c'était une bonne vivante, vraiment une vraie bonne vivante, très généreuse, et c'était une vraie maîtresse de maison. Nous, quand on allait la voir, c'était en général pour les vacances de Noël, donc elle recevait toute la famille, et puis également pendant les week-ends. Et on allait passer quelques semaines chez elle pendant l'été également à la Baule. Et la Baule, c'est là où elle a grandi. Et elle vient d'une famille où il n'y a que des frères. Et pareil, ses cousins, c'était la seule fille. Donc elle avait un caractère assez fort parce que toute sa jeunesse...
Elle a toujours dû s'imposer un peu en tant que femme au milieu de ses hommes.
Au milieu des hommes et qui n'était pas tendre avec elle. Une petite anecdote, quand ils allaient à la messe le dimanche, dans la file pour aller à la communion, un de ses frères avait pris une aiguille et lui avait piqué les fesses au milieu. Donc on imagine au milieu de l'église en train de crier un grand coup parce qu'un de ses frangins lui a piqué les fesses avec une aiguille. Donc voilà, un petit peu élevée au milieu de tout ça, donc ça forge le caractère. Et c'était une dame qui adorait faire du vélo, elle nous parlait toujours de sa bicyclette. Donc on imagine à l'époque, pour une femme, faire du vélo en pantalon en plus, c'était quelque chose, ça cassait un petit peu les codes. Donc un petit côté rebelle, on peut dire, mais vraiment un caractère très bien prononcé, très fort.
Oui, comme beaucoup de choses pour les femmes, faire du vélo, ça n'a pas toujours été vu comme quelque chose d'acceptable pour la société. Et c'est comme s'il fallait dépasser quelque chose et avoir du caractère pour le faire, et comme elle a fait d'autres choses, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est un simple outil, un simple véhicule, mais qui apporte une liberté pour se déplacer. Et ensuite, la guerre est arrivée. Elle est née en 1921, donc... Elle a eu la guerre est arrivée quand elle avait 18 ans environ. Mon grand-père disait d'ailleurs, j'ai eu mon bac grâce à la guerre, parce qu'il faisait passer qu'une épreuve, et à l'oral, il était tombé sur l'histoire, et à l'oral, donc c'était facile pour lui. Et donc pendant la guerre, ma grand-mère était infirmière dans l'hôpital de la Baule, et notamment avec le docteur Dubois, qui était le chef de service. Et le docteur Dubois avait... aussi une partie où il était dans la résistance, donc ma grand-mère a un petit peu baigné là-dedans, et on disait le caractère assez trempé de ma grand-mère. Ça a été aussi initié par sa mère à elle, qui avait une maison à la Baule, qui avait été occupée par les Allemands, et sauf qu'avant d'être occupée par les Allemands, sa mère avait pris soin d'enlever tout, les baignoires, les bidets, les lavabos, les interrupteurs. Donc, si les Allemands voulaient habiter dans sa maison, ils pouvaient y aller, mais il n'y avait plus aucun confort, quoi. Donc voilà, ça monte encore le petit côté.
Il y a des histoires comme ça de résistance pendant la guerre qui t'ont été racontées par ta maman, par ta grand-mère aussi, Elisabeth.
Il y a eu
un récit ou c'est toi qui t'es intéressé après par d'autres voies ?
Non, ils en parlaient un petit peu, mais ils ne s'arrêtaient jamais très longtemps sur le sujet. Ça, on sentait que c'était encore un sujet qui était douloureux, qui n'était pas loin. Je me souviens une fois, j'avais essayé de regarder Le Pianiste qui venait de sortir le film avec mon grand-père et pas moyen d'aller jusqu'au bout du film parce que ça ravivait des souvenirs trop douloureux. Et puis, ça gardait ses réflexes de faire des conserves. Quand on a récupéré la maison de ma grand-mère à son décès, on a trouvé des placards entiers de conserves parce qu'on ne sait jamais, au cas où, il y a une guerre qui arrive. Donc voilà, toujours ces petits réflexes des personnes qui ont connu la guerre.
Alors, il y avait quoi dans les conserves ?
Oh, de tout. Et puis,
je pense au ragoût du début de l'émission, mais j'ai envie de savoir le contenu.
Honnêtement, on ne les a pas essayés parce que toutes les étiquettes qui étaient étiquetées à la main... On n'a pas tenté. On a retrouvé des vieilles cerises, mais il n'y avait plus de cerises, quoi. Tout était décomposé, donc non, on n'a pas gardé grand-chose, des conserves, du moins.
Et alors, tu nous parles d'Elisabeth depuis tout à l'heure, j'aurais envie de savoir à quoi elle ressemble. Est-ce que tu as des photos ? Est-ce que tu peux nous dire comment elle s'habille ? Est-ce qu'elle était grande, petite ? Nous la décrire un petit peu ?
Alors, c'était une femme très grande et très élégante. Alors, nous, on l'a toujours connue, grand-mère, donc avec ses cheveux blancs. Mais quand on voit des photos de l'époque et quand on a récupéré la maison... En ouvrant les tiroirs, on a retrouvé plein de photos d'elle, notamment. Et la photo au début du 20e, c'était quelque chose. Aujourd'hui, voilà, c'est facile de prendre des photos, on en prend dans tous les sens. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose. On prenait une photo, c'était un moment important de la journée.
C'était un événement et puis ça crée une rareté de l'objet qui n'existe plus.
Ouais. Donc il y a quelques poses qui sont très marrantes, alors que ce soit avant des dîners ou pendant des dîners ou même quand ils partaient, ils aimaient beaucoup faire du bateau. Donc voilà, on voit ma grand-mère à différentes périodes de sa vie qui était très brune. Qui était très bonne à l'époque, et une femme assez grande, très élégante, et moi j'en ai le souvenir d'une femme toujours un petit peu pomponnée, pas trop maquillée, mais toujours un petit peu de poudre, un petit rouge à lèvres très, très discret, toujours avec des boucles d'oreilles. Je me souviens de ces grosses perles qui pendaient à ses oreilles, toujours une petite bague, un petit bracelet et un grand collier. Et c'est quand tu arrives chez ta grand-mère, elle te prend dans ses bras, elle te serre très fort avec un grand baiser vibrant qui fait du bruit. Et tu vois, les quelques secondes où tu dis bonjour à ta grand-mère, c'est tu restes là, il peut rien t'arriver, quoi. Ça sent bon, t'es au chaud, t'es...
C'est une sécurité, c'est une tendresse.
C'est une sécurité, voilà, une tendresse, un petit geste d'amour tout simple, mais d'une tendresse infinie. Et ça, c'est vraiment des souvenirs. Et puis, tu sens cette petite odeur de poudre qui s'est mise sur les joues, ce petit parfum d'eau de Cologne, parce que ce qui fait la différence pour savoir si tu es un bon distillateur liquoriste ou non, c'est est-ce que tu fais ton eau de Cologne maison. Et donc, on faisait notre eau de Cologne maison, encore aujourd'hui. Et donc, c'est ma grand-mère qui prenait soin de mettre une petite bouteille d'eau de Cologne dans chacune des cabinets de toilette des chambres de sa maison. Donc, quand on venait... Il y avait toujours cette petite odeur qui flottait dans la maison, et puis elle s'en mettait toujours un petit peu. Donc voilà, des odeurs très caractéristiques. Et encore aujourd'hui, tu vois, je le disais, on a récupéré la maison de notre grand-mère. Donc quand elle est morte, ça va faire 9 ans l'année prochaine. Elle est morte à la Toussaint. La maison familiale était dans l'héritage. Et c'est mon père qui a hérité de cette maison. Et lui n'avait pas d'ambition que ce soit d'y habiter ou de l'exploiter, mais on voulait garder la maison parce que c'est quand même là où on avait tout. Beaucoup de souvenirs de famille. Et donc, on a monté une société avec mon frère et ma sœur. On a racheté la maison à notre père. On a fait les travaux qu'il fallait pour pouvoir l'exploiter parce que ni mon petit frère ni ma grande sœur voulaient y habiter. Et on a décidé de garder cette maison ouverte, vivante comme on l'avait connue. Moi, je l'utilise pour recevoir nos clients et nos distributeurs Cointreau. Et à côté de ça, on fait quelques séminaires et d'autres événements privés.
Une seconde vie à la maison d'Elisabeth.
C'est ça. Et s'il y a une seconde vie, si on a fait des travaux dedans, on a voulu garder l'âme initiale, mais il y a aussi l'odeur. Et l'odeur dans les pièces. Et encore aujourd'hui, quand j'ai mes cousins qui viennent à la maison, ils sont « Ah, c'est fou !» Dans le bureau, tu vois, il y a encore l'odeur. Dans les chambres, il y a encore les odeurs. Dans le grand salon, il y a encore les odeurs. Et c'est des choses qui font vraiment partie de la maison. Et tu ne peux pas les enlever.
Et Elisabeth, elle est toujours là un petit peu quelque part.
Elle est toujours là.
Par ça, par des odeurs, par des objets, peut-être. Est-ce que tu la croises encore d'une certaine manière où il y a plein de choses qui te font penser à elle, inévitablement?
Alors oui, c'est la seule grand-mère que j'ai connue, donc elle m'a beaucoup inspiré. Aussi, on a été éduqués dans le sens où les grands-parents, c'est important. Donc, il faut passer du temps avec eux, il faut échanger avec eux, parce que tant qu'ils sont encore là, il faut en profiter. Et donc...
relation précieuse.
Une relation extrêmement précieuse. Et ça, malheureusement, on s'en rend compte, mais toujours trop tard quand ils sont partis. Donc, mais on a beaucoup grandi avec elle, et notamment... alors, c'est une des plus petites pièces de la maison, mais une pièce où il y avait toujours du monde. Juste à gauche, quand on rentrait dans sa maison, c'était le bar. En général, quand tu es en famille, tu te retrouves...
On y vient au bar, au cocktail, voilà. À la famille Cointreau.
Dans la famille Cointreau, naturellement, on est un petit peu déformé, j'ai envie de dire. Et en général, quand on se retrouve en famille, c'est soit dans la cuisine, soit dans le salon. Nous, on se retrouvait au bar. Donc, comme je te disais, plus petite pièce de la maison, mais où il y a toujours eu du monde. Et c'est vrai que c'était des moments magiques, parce que déjà, tu as un bar à la maison, donc c'est pas commun. Et puis, il se place toujours plein de choses. Tu as des ustensiles que tu peux manipuler dans la cuisine. Tu vois, tu as des ustensiles, mais en général... tu n'y as pas trop accès. Mais là, le bar, tu peux un peu plus facilement les manipuler. Et puis, tu as toujours ce côté, voilà, quand tu arrives pour l'apéritif, hop, tu vas au bar. Quand tu rentres d'un dîner, hop, petit Dijon au bar avant d'aller se coucher. Donc, ça a vraiment fait partie de notre enfance. Et nous, on a été éduqués, voilà, en partie dans le bar de notre grand-mère. Et c'était elle.
Donc c'était son bar à Elisabeth.
C'était son bar, ouais,
et elle aimait y être, elle aimait faire des cocktails, elle avait ça. Elle avait
tout
ça
à fait, ouais. C'était sa cuisine, son bar, une vraie maîtresse de maison, et quand on arrivait, que ça soit pour un week-end ou pour une semaine, tout était planifié, organisé, pour pas de place pour la surprise, et pour qu'on puisse chacun vraiment profiter, un petit peu se mettre les pieds sous la table, si tu veux, comme c'était vrai, ça c'était vraiment agréable. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'essaye de garder cette organisation, un petit peu cette rigueur avant de recevoir des amis ou avant de recevoir la famille, pour le jour J où ils sont là, vraiment en profiter pleinement, quoi, avec eux.
Recevoir,
exactement.
Alors, il y a une générosité dans le mot recevoir.
Une vraie générosité, l'hospitalité, j'ai envie de dire.
Oui.
Le côté recevoir, partager, et elle partageait très facilement ses recettes de cocktails. Ça, c'était pas compliqué de les avoir. Par contre, ces recettes de cuisine, si tu voulais y avoir accès, là, il fallait passer un peu plus de temps dans la cuisine avec elle, et il fallait plus aller les chercher, j'ai envie de dire, et les mériter.
C'était des secrets un peu plus gardés.
C'est ça.
Alors du coup, toi, tu es passionné par le cocktail, l'art du cocktail. Donc ça te vient vraiment directement de ta grand-mère. Comment ça s'est passé un peu, j'ai envie de dire, l'instruction, même si c'était beaucoup plus naturel que ça?
Alors, j'ai envie de dire, pour rejoindre Astérix Obélix, on parlait au début de l'interview, on est tombé dedans quand on était petit. Donc, on a un petit rituel dans la famille, c'est le jour de notre baptême, on a environ 6 mois. C'est le grand-père qui donne le biberon, et dans le biberon, il met une petite goutte de Cointreau, vraiment un dash, comme on dit dans le bar. Donc, c'est un petit peu le premier rituel qu'on a. Et dans le bar de ma grand-mère, l'endroit où on met les fruits et les glaçons, c'est un grand bénitier en marbre qui n'a pas bougé parce qu'il pèse un âne mort. Donc voilà, on a ce côté, c'est toujours le petit clin d'œil au premier rituel. Et quand mes enfants sont nés, ma première fille, Louison, c'est ma femme l'allaitait, et j'avais réutilisé le lait maternel pour faire un petit cocktail qui s'appelle le Ramos Gin Fizz, donc que j'avais un petit peu changé la recette avec le lait maternel.
Tu inventes des cocktails aussi, ouais. C'est une création, y a quelque chose de créatif comme ça qui existe depuis toujours pour toi par rapport aux cocktails.
Alors, tu as des recettes classiques qui ont été créées depuis 1806, c'est la première définition écrite du cocktail. Et depuis lors, tu as des barmans ou d'autres personnes qui ont créé des cocktails, donc ça peut devenir des classiques. Comme par exemple le Sidecar, qui est un cocktail avec du Cointreau, du cognac, du jus de citron jaune. Comme par exemple le Cosmopolitan, que tout le monde connaît, avec du Cointreau, de l'avocat, du cranberry. Voilà, c'est des cocktails qui ont été créés un soir, mais qui se sont vraiment ancrés dans l'histoire et qui sont aujourd'hui incontournables. Le plus incontournable pour la maison, c'est la Margarita, qui est le cocktail le plus mentionné à travers le monde sur les menus de cocktails. Mais... tu peux aussi créer. Donc, soit tu crées from scratch quelque chose de A à Z quand tu as un petit peu de talent. Là, on appelle plus un barman, on appelle ça un mixologue, si tu veux.
La mixologie. C'est le nom de l'art créatif des cocktails.
Ou sinon, alors moi, je ne suis pas un bon mixologue, je suis juste un humble barman d'une recette qui existe déjà. Je vais un petit peu broder autour. Donc, comme le Ramos Gin Fizz, par exemple, je ramenais un ingrédient un petit peu spécifique. Ou sinon, par exemple, le margarita en ce moment, pendant la période de Noël, il y a beaucoup d'agrumes, de fruits exotiques, c'est la période. Et une bonne margarita avec un fruit de la passion, c'est quelque chose d'absolument délicieux. Donc, c'est comme ça qu'on a grandi, si tu veux. Notre grand-mère, c'était si on était 3 avant le dîner ou si on était 15. On n'allait pas faire le même cocktail, si tu veux. Soit tu allais pré-batcher un grand cocktail dans un grand saladier, dans un grand pichet pour faciliter le service. Tu as juste à shaker, servir. Et puis toujours pour apprécier le moment, toujours le côté organisation, anticipation, pour apprécier le moment avec les convives. Parce que si tu es tout seul dans ta cuisine ou tout seul dans ton bar, tu ne profites pas, c'est pas marrant.
Oui, prévoir pour être libéré. Exactement. Sur le moment du fait d'avoir à faire et pouvoir de profiter, ouais, des gens.
Et si tu es moins nombreux, par exemple, c'est ce qu'on... On s'est forcé de faire avec mon petit frère et un de mes cousins, c'est aller passer des week-ends avec notre grand-mère, parce que on savait que c'était précieux et que, comme pour tout le monde, le temps est compté. Donc on passait des week-ends avec elle entier, et c'est là où elle nous sortait des recettes un peu plus sophistiquées, un choix de la verrerie aussi très important. Et tu as une règle dans le cocktail, c'est les 3 S pour trouver le bon équilibre du cocktail. Donc tu as le côté sweet, le côté sucré, le côté strong qui est amené par l'alcool et le côté sour qui est le côté agrume, citron. Donc il faut trouver le bon équilibre. Un bon cocktail, c'est le bon équilibre entre ça. Et ma grand-mère adorait rajouter le 4e S, le côté sexy, parce que tu bois d'abord un cocktail avec les yeux. Donc la couleur de ton cocktail, mais aussi le choix de la verrerie, la garniche, donc la décoration du cocktail, tout ça est vachement important, parce que si tu as un beau cocktail bien qui attire l'œil, tu vas plus facilement vouloir le boire. Donc voilà, c'est les...
Ça, c'était son petit S, ouais, supplémentaire à elle.
Le quatrième S de Baby, le côté sexy.
Tu as dit tout à l'heure qu'elle partageait volontiers ses recettes de cocktails. Est-ce que tu peux nous partager une recette d'un cocktail qu'elle t'a appris, qui lui ressemble, elle ?
Je te dis, la margarita, c'est le premier cocktail que j'ai créé avec elle dans son bar. Donc t'imagines, une dizaine d'années, c'est la première fois que tu vas manipuler un shaker, donc tu vois cet instrument emblématique du barman. Et puis pour n'importe quelle personne, on n'a pas besoin de la notice pour utiliser un shaker, tout le monde connaît plus ou moins le mouvement, mais tu as quand même quelques petites choses. Et moi notamment, la première fois, j'avais oublié mettre des glaçons dedans, donc le but de shaker, c'est de mélanger mais aussi de rafraîchir. Donc énorme erreur de débutant, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le genre de choses qu'elle laissait pas passer. Par exemple, des choses.
La plus jamais refaite.
Plus jamais refaite. Et une erreur aussi que tu fais au début, c'est que tu prends les glaçons, tu vois, à pleine main. Première règle du barman qui nous a été inculquée par notre grand-mère, tu manipules jamais les glaçons avec les mains. C'est toujours avec un instrument, une pelle, une pince, quelque chose. Mais voilà. Donc au fur et à mesure d'erreurs, d'échanges et de temps passé dans les bars, voilà, c'est les petites choses qui rentrent. Et par exemple, la façon de shaker, c'est elle qui me disait, pour shaker, donc il ne faut pas être frustré, crispé, parce que sinon tu ne peux pas shaker longtemps. Si tu n'as qu'un cocktail à faire, ça va, mais si tu dois en faire 20 dans la soirée, il faut trouver une façon de shaker détendue.
Délié, légère.
Voilà. Ouais. Et puis elle me disait tout simplement, tu t'entraînes à shaker pendant 5 minutes, et pendant 5 minutes, il ne faut pas que tu sois fatigué. Donc tu t'entraînes avec rien dans le shaker, mais tu... Pendant 5 minutes, il ne faut pas être fatigué. Le moment où tu as trouvé les 5 minutes où tu n'es pas fatigué, c'est ta bonne façon de checker. Voilà, des petites astuces comme ça, des petits tips. Et donc, pour revenir à la recette, la margarita, c'est vraiment une recette emblématique. C'est aussi une recette que j'ai tatouée sur le bras droit, tu vois, pour toujours en souvenir pour ma grand-mère et pour cette recette emblématique. Et puis après, suivant le nombre de personnes où il y avait à la maison, ou sinon aussi suivant la période. Si on est l'été, elle avait une maison à La Baule où on allait passer quelques temps. Si c'est l'été à La Baule ou l'hiver à la Richardière, voilà, on ne faisait pas forcément les mêmes recettes.
Oui, chaque saison, chaque moment a son cocktail propre qui ressemble au moment, qui va accompagner le moment.
Et quand on était à La Baule, donc au début, on était jeunes, des enfants, et puis après, tu deviens adolescent, tu sors. Et à chaque fois, elle nous disait « Bon, vous allez faire la nouba ce soir. » C'était son petit nom pour les soirées. Et suivant si on allait faire la nouba ou pas, et suivant si on rentrait plus ou moins tard, le lendemain pour l'apéritif, à midi et demi, que que tu te sois couché à 23h ou que tu te sois couché à 4h du mat, il fallait être à 12h30 dans le salon pour l'apéro. C'était extrêmement important. Là, sinon, tu te faisais engueuler si tu n'étais pas...
Fallait assumer la nouba, quoi.
Ah, il fallait assumer la nouba. Et justement, elle arrivait à faire le cocktail, à adapter le cocktail en mode le cocktail bah, si tu t'es levé tôt ou si tu as un petit peu la gueule de bois.
Il y avait le cocktail médicament à la gueule de bois, ça,
il y avait ça, le existait. Cocktail, ça existait. Alors, quelque chose de très généreux avec à base de café et de crème et toujours une petite larmichette de Cointreau, naturellement. Ça s'appelait l'Alexandrin, donc... Petite recette très, très spécifique de ma grand-mère. Et puis, ça faisait vraiment le rôle du cocktail. Un petit peu d'alcool, quelque chose qui tient au corps. Et là, tu es reparti pour la journée. La gueule de bois ne dure pas longtemps.
On dirait qu'elle avait un cocktail pour chaque, chaque instant, pour chaque
occasion,
état,
ouais.
Pour chacun de vos pas presque. J'exagère, mais il y a quelque chose comme ça. On voit une vraie transmission. C'est passionnant tout ce que tu nous dis sur... sur voilà, ces phrases, comment elle t'a appris à l'art du cocktail, et elle, d'où ça lui venait, comment elle l'a appris, est-ce qu'elle vous racontait aussi un peu les traces de ça en elle?
Alors, le cocktail, c'est revenu à la mode en France pendant entre les deux guerres, si tu veux. Et puis, bah, quand elle a rencontré Monsieur Cointreau, si tu veux, il a bien fallu à un moment se coller au cocktail. Donc elle jouait ce rôle de maîtresse de maison, recevoir les convives, et puis une bonne façon de recevoir les convives, de les mettre à l'aise, de aussi un petit peu déstresser, parce qu'elle faisait beaucoup de grands dîners formels, avec un côté business, quand on invitait les marchés, les distributeurs, il y a toujours un petit côté un petit peu, qui peut être un petit peu stressant, et en fait de faire un bon petit cocktail pour mettre tout le monde à l'aise, voilà. C'est un bon outil, c'est un bon moyen. Donc, elle l'a pris sur le tas parce que, initialement, ça restait. Elle venait d'une famille de Français comme toi et moi, hein, classique. Donc, on a les meilleurs spiritueux, les meilleurs vins, les meilleurs champagnes du monde. Par contre, le bon Français aime bien les boire séparément. Il ne veut pas forcément les mixer. Au début, je parlais du sidecar. Mixer du Cointreau et du cognac pour un Français, c'est un peu un sacrilège. Non, on ne mixe pas du Cointreau, non, on ne mixe pas du cognac. Mais en réussissant à mixer les deux, tu peux faire des choses très bonnes. Donc voilà, elle a un petit peu appris sur le tas. Et puis, c'est quelque chose qui fait toujours partie de l'ADN de la marque. Donc, quand elle a rencontré Monsieur Cointreau, elle s'est mise au cocktail dans la foulée.
Oui, on a l'impression aussi qu'il y a une forme un peu d'originalité à maîtriser cet art du cocktail. Ouais. Et ça lui ressemble. Ça ressemble au caractère, à son caractère, à ce que tu nous disais au début. Mmh. On sent qu'elle s'est appropriée ça avec joie. Ça, elle a trouvé quelque chose qui l'épanouissait, qui lui ressemblait peut-être.
Ouais, tout à fait. Alors, en France, c'est sûr que la gastronomie, c'est quelque chose qui est ancré. Mais l'art du cocktail, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise. Mais c'est assez marrant. Et moi, j'adore faire ça à la maison. Quand tu as des invités qui arrivent, premier cocktail, tu leur montres comment faire. Hein, ils sont un petit peu timides, ils ne savent pas trop comment faire. Le second, ils sont déjà plus confiants. Et le troisième, c'est eux qui t'apprennent comment faire. Tu vois. C'est assez facile, c'est très ludique. Et puis, il y a des grandes règles, des grandes lignes. Mais en fait, à l'intérieur, tu peux très facilement broder, très facilement créer. Et c'est assez sympathique. Ouais.
Alors Alfred, il est déjà l'heure, malheureusement, d'achever cette conversation savoureuse. Merci beaucoup d'être venu sur Radio G nous parler de tes grands-mères.
Eh bien, avec plaisir.
Alors, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. Et on termine, comme d'habitude, en littérature avec le mot de la fin pour Alfred Cointreau qui va nous lire un texte de son choix.
Toujours de façon responsable, parce qu'on parle un petit peu d'alcool, donc toujours consommer de façon responsable. Et là, je vais vous faire lire un petit extrait d'un livre qui s'appelle « Cocktail de Paris ». J'ai la fâcheuse tendance de collectionner des choses et notamment des bouquins de cocktails. Et notamment ce bouquin de cocktail, je l'ai retrouvé dans le grenier de ma grand-mère. Et il avait commencé à être bouffé par les rats et les souris. Mais l'introduction de ce cocktail est assez marrante. Le bar chez soi, le cocktail à domicile, l'alcool at home, la cuite en famille. Nous y arrivons enfin. Ah, nous en avons mis du temps à marcher sur les traces héroïques de nos bons amis anglais. Pénétration toute pacifique cette fois. Accueillons en voisins et alliés le bar quasi royal, God Save the Cuite. Ouvrons les portes de notre maison, qu'ils prennent place à notre foyer. Et faisons-lui les honneurs de notre intérieur. Notre intérieur en sera réchauffé. et notre maison sera, comme toutes les maisons de France, la maison du cocktail.